Retrouvez votre émission sur NutriRadio avec PharmManager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. Nutractu sur NutriRadio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractu sur NutriRadio, la seule émission radio consacrée à la nutraceutique. C'est chaque semaine et aujourd'hui, c'est un format spécial et unique que l'on vous propose à l'occasion de l'interview exclusive de Nicolas Capelaer, le nouveau président de l'EHPM, la Fédération Européenne des Fabricants de Produits de Santé, qui représente donc les fabricants de compléments alimentaires et qui défend leurs intérêts auprès des institutions européennes. Interview sans filtre, à la volée, enregistrée dans les conditions du direct et au cours duquel vraiment Nicolas a balayé les principaux sujets, que ce soit les enjeux réglementaires et les menaces sur la filière, les actions et les stratégies de l'EHPM, les incohérences et les paradoxes du marché, les facteurs d'optimisme aussi, et puis un appel à la mobilisation de la filière. Écoutez bien, entretien exceptionnel, c'est maintenant. Bonjour Nicolas, alors vous venez d'être nommé président de l'EHPM, quelle sera votre première priorité pour défendre et promouvoir ce secteur des compléments alimentaires en Europe?
Alors c'est vrai que j'ai été nommé élu président là, il y a quelques jours. Les priorités ne changent pas, hein. La profession fait face quand même à des risques, on va dire, réglementaires sérieux, comme depuis toujours, hein, depuis que la profession existe. Ça a toujours été le cas d'avoir en face une vision administrative assez, sévère en tout cas, pour la filière. Donc les sujets les plus préoccupants du moment, ce sont les révisions des valeurs limites en vitamines et minéraux, hein, puisqu'il y a un projet d'harmonisation pour tous les pays d'Europe. Et donc la Commission européenne est en train de réfléchir à une dose pour chaque vitamine et chaque minéral. Et c'est un sujet qui est quand même préoccupant, parce que bien évidemment, a priori, la Commission européenne veut réduire ces doses. Donc on a commencé par les alerter sur le fait que il se passe des choses autour de l'Europe, hein, à l'extérieur de l'Europe. Et puis cette réduction ne repose pas sur des données scientifiques qui prouvent une dangerosité d'un produit. Donc vraiment, c'est une énorme mobilisation de la profession, que ce soit en France, mais aussi que ce soit dans chaque pays d'Europe, pour montrer qu'il y a un risque majeur de destruction de valeur dans cette filière. C'est vraiment un sujet très, très préoccupant. Voilà comme premier sujet. Et puis, comme sujet récurrent, on a les fameux articles 8 du règlement 1925, où la Commission européenne est saisie parfois par certains États membres pour statuer sur certaines substances. Comme par exemple, dans le cas de la levure de riz rouge, qui a été mis sous surveillance et qui, à mon avis, risque fortement d'être interdit. On va voir, hein, on va continuer de se battre, mais la Commission européenne aujourd'hui, elle est assez dure sur la levure de riz rouge. On a beau faire état des données scientifiques, ça fait très compliqué de contrer l'EFSA et l'autorité de santé européenne. Puis bon, il y a la filière phalipoïque aussi, qui est quand même sur la sellette. Et puis, une plante intéressante, l'ashwagandha. Voilà, donc, qui a priori pourrait être interdite dans les Pays-Bas. Et si l'ashwagandha est interdite dans les Pays-Bas, par ricochet, par effet domino, ça peut se propager dans d'autres pays en Europe. Je veux vraiment qu'il y ait une mobilisation massive de tout le monde.
Alors, mobilisation massive, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'EHPM peut faire pour accompagner les acteurs du marché?
En fait, l'EHPM discute beaucoup avec la Commission européenne, hein, qui est l'instance technique, et discute avec les parlementaires européens. Donc, quand l'EHPM discute avec les parlementaires européens, elle discute avec les parlementaires européens français, à ce moment-là, accompagnés de Synadiète, ou les parlementaires italiens accompagnés de l'Integratore Salute, etc., etc. Donc, EHPM, c'est un porte-voix qui est indispensable, parce que pour parler à l'Europe de façon générale, il faut une fédération européenne. C'est comme ça. Donc, un système qui fonctionne comme ça. Donc, EHPM a des bons contacts avec la Commission européenne. J'ai eu un rendez-vous il n'y a pas très longtemps, justement, avec la Commission européenne pour parler, en tout cas, des valeurs limites en vitamines et minéraux. Ils ont dit qu'ils nous tiendraient informés et qu'on serait, on va dire, interrogés sur le sujet au fur et à mesure. On leur a rappelé qu'en théorie, quand ils veulent faire des modifications importantes de règles ou de règlements, ils doivent mener une étude d'impact. Donc, pour mesurer, si on prend telle décision en termes économiques, qu'est-ce qui se passerait? Et aujourd'hui, la Commission européenne ne l'a pas fait, dans ce qui est grave. Donc, la profession a décidé de la faire elle-même, cette étude d'impact. Donc, on en est au début, mais ça coûte très cher à chaque fois. Et c'est des études qu'il faut faire par les grands cabinets. On va nous faire cette étude d'impact pour montrer aux politiques, d'une façon générale, le risque que ce texte, en tout cas s'il est adopté de la mauvaise façon, hein, parce qu'il peut très bien être intéressant, hein, harmonisation, si les doses elles sont revues de façon intéressante, il n'y a pas de suivi, mais si elles sont revues à la baisse de façon importante, il y aura une destruction de valeur. Donc destruction de valeur, destruction économique, destruction d'emplois, sachant que le consommateur, lui, ses produits, hein, s'il ne veut pas les trouver en Europe, il les trouvera ailleurs.
Cette étude d'impact et le fait plutôt que ce soit obligatoire et qu'elle n'ait pas été réalisée, qu'est-ce qui justifie qu'ils se sont dit
Parce qu'ils l'ont considéré que ce n'était pas la peine de la faire. Donc, la Commission européenne, ce sont des gens qui sont employés et qui décident à tort ou à raison certaines choses. Donc après, bon, c'est comme ça qu'on a contesté, alors c'est pas pour la même raison, mais qu'on avait contesté le règlement sur les HAD, et que le règlement sur les HAD a été suspendu. Mais la Commission européenne a fait appel derrière, et comme l'appel est suspensif, le texte pour le moment est en vigueur. Donc c'est un marathon juridique sur beaucoup de sujets. Et en fait, la Commission européenne, elle va essayer de lancer beaucoup plus de, à mon avis, de contester de beaucoup plus de sujets de cette façon, ce qui va obliger la profession à les contester devant les tribunaux. Et contester devant les tribunaux, ça coûte de l'argent.
Est-ce que vous avez identifié des parlementaires qui sont sensibles à ces sujets et qui pourraient faire...
Oui, on en a identifié. On a notamment un parlementaire belge qui est très actif et qui, avec qui on réfléchit pour essayer de former une espèce de coalition. Mais enfin, c'est peut-être un peu prématuré pour en parler, mais ouais, ils sont sensibles à nos arguments. Mais tous les parlementaires ne font pas partie de la commission santé, quoi. Par exemple, dès que ces parlementaires ne sont pas dans la commission santé, nos sujets ne les intéressent pas.
Et donc, justement, ces parlementaires de la commission santé, il y en a quelques-uns qui sont peut-être sensibilisés, mais à contrario, est-ce qu'il y en a qui sont vent debout, qui agissent vraiment contre cette filière?
Des parlementaires qui agiraient contre notre filière?
Oui, au sein de cette commission santé.
Non.
Est-ce qu'il y en a qui sont plutôt soit très sachants et ouverts à la discussion, soit ne sachant pas vraiment l'enjeu des compléments alimentaires, soit au contraire vent debout en disant attention, danger?
Alors, vent debout, je pense pas. En tout cas, je n'en ai pas rencontré qui soit vent debout. Beaucoup de parlementaires qui ne connaissent pas la filière, toujours. Mais en France, c'est la même chose, hein. Donc, au niveau européen, encore plus. Beaucoup de parlementaires qui prennent des compléments alimentaires sans savoir que ça en est, hein. Et qu'on leur demande s'ils prennent des compléments alimentaires, en général, ils nous disent non. Et si on leur demande si vous prenez de la vitamine C, ils nous disent oui. Si vous prenez, je sais pas, de la spiruline, ils nous disent oui. Des vitamines, oui. Là, vous prenez des compléments alimentaires. Donc, il y a vraiment une méconnaissance totale de la filière, de ses produits, de ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ce qui est possible pour faire parler de la filière et expliquer ce qu'on fait, quoi. Mais vent debout, on a peut-être, mais c'est pas la majorité en tout cas. Et par méconnaissance, les gens voteront toujours en utilisant un principe de précaution, sans savoir que réellement l'impact que ça peut avoir.
Et alors, des grands enjeux stratégiques des années à venir, donc pour le secteur qui est en pleine croissance, selon vous, ce sont lesquels?
Ah oui, d'arriver à ce que l'accompagnement réglementaire puisse accompagner le développement du marché, tout en respectant bien sûr la sécurité et la qualité, je veux dire, que les consommateurs recherchent. En Europe, on a vraiment des produits. Offrant sincèrement au monde, on a des produits avec la plus grande qualité, la meilleure sécurité, comparé par exemple aux États-Unis.
Et alors, ça c'est un point de vue intéressant. C'est la comparaison avec les États-Unis, c'est un marché
beaucoup plus avancée, beaucoup plus mûre sur le complément alimentaire. Pourtant, en matière de sécurité, bon, avec des limites. Si je prends un sujet comme la mélatonine, par exemple, on sait qu'aux États-Unis, je crois qu'on peut prendre, je sais pas, 7 grammes ou 7 mg ou 8 mg, j'en sais rien. En France, c'est 1,9 mg. Et des groupes de travail aussi s'organisent pour avoir aussi un meilleur encadrement de la distribution de la vente de produits alimentaires, enfin de compléments alimentaires avec de la mélatonine. Est-ce qu'il n'y a pas un double discours aujourd'hui entre la réglementation qui se durcit d'un côté et de l'autre côté, on va pouvoir retrouver ces produits dans des supermarchés?
Le problème, c'est qu'on a des substances identiques qui sont parfois considérées comme des compléments alimentaires et parfois considérées comme des médicaments. Le cas de la mélatonine, c'est celui-là. C'est-à-dire que il y a eu, on va dire, une espèce de tolérance sur le fait que la mélatonine puisse, en France par exemple, être considérée comme un complément alimentaire jusqu'à 1,9 milliard, et au-delà de cette dose, soit considérée comme médicament. En Belgique, c'est 400 microgrammes, et c'est quasiment 4 fois moins. En Italie, je crois que c'est 1 milligramme. Enfin, je ne connais plus exactement les teneurs limites par pays, mais en fait, la problématique, c'est tout le temps celle-là, c'est que ce produit historiquement a pu être considéré comme un médicament, mais aujourd'hui il n'y a plus de raison qu'il soit toujours considéré comme un médicament. Et donc il y a des pays qui ne veulent pas que ces substances deviennent des produits en vente libre. Donc après la question du cycle de distribution, c'est un autre sujet. Mais la première difficulté réglementaire, c'est plutôt la requalification de la substance. Les plantes, c'est pareil. Il y a des plantes qui sont considérées comme médicaments et qui ne sont considérés comme des compléments alimentaires. Si on prend l'Allemagne, l'ail est un médicament, alors que l'ail n'est pas un médicament dans les autres pays. Et si on suit le principe de la libre circulation des marchandises et des biens, on devrait pouvoir vendre des gélules d'ail sans que ce soit un médicament.
D'accord, donc un des enjeux aussi, c'est cette harmonisation finalement européenne qui n'existe pas aujourd'hui.
C'est notamment l'harmonisation des vitamines et minéraux dont je parlais, il n'y a pas d'harmonisation aujourd'hui sur les plantes, c'est un vrai sujet. Hein. Donc petit à petit ça avance, mais certains États, notamment du nord de l'Europe, ne sont pas favorables à ce que les plantes soient, d'un point de vue européen, considérées partout comme des compléments alimentaires. Parce que pour eux, c'est une façon de protéger leur marché.
C'est-à-dire
si je vais dans un pays, par exemple, vendre des gélules d'ail au hasard, mais que dans ce pays, c'est un médicament, et que moi, je ne peux plus demander d'autorisation en tant que médicament parce que cette catégorie n'existe plus, je ne peux pas aller en Allemagne, par exemple, vendre des gélules d'ail. Donc, il n'y a que les entreprises allemandes qui pourront faire des gélules d'ail en Allemagne. Comme ça, il n'y a que les entreprises allemandes qui vendent des gélules d'ail, qui n'est pas vraiment dans le sens de l'Europe et de la concurrence et de la libre circulation des marchandises, etc.
Ce à quoi on devrait tendre naturellement, quand même, si on suit la politique européenne.
Ce à quoi on devrait tendre, c'est la Commission européenne a voté des lois pour renforcer le principe d'harmonisation. Mais dans le domaine des compléments alimentaires, comme on est, on va dire, sur la ligne de la santé, il est dit dans le texte européen qu'en matière de santé et d'ordre public, les États membres restent souverains. Donc, avec cette petite phrase, il y a une espèce de biais qui fait que vous pouvez, certains États membres pourraient considérer que c'est un cas de santé publique grave, par exemple, que quelqu'un vienne vendre des gélules d'ail en Allemagne et mérite du coup que l'Allemagne soit souveraine sur cette décision. Je pense que c'est quand même discutable. La santé, c'est peut-être des sujets autres, mais voilà, donc comme le texte est vague, les États membres sont au goût, quand même, donc.
Très bien. Et alors, il y a ces ingrédients ou ces qui sont un peu menacés, l'acide alpha-lipoïque, il y a la berbérine, il y a la levure de riz rouge, même si on a l'impression que ça fait des années que la levure de riz rouge, après avoir baissé les dosages, là maintenant, ça pourrait être complètement interdit. C'est ça que vous...
On ne sait pas. En fait, la Commission européenne est en pleine de surprises, mais comme cette substance, elle était sous surveillance depuis 3 ans, et donc la Commission européenne, elle est amenée à statuer après de 3 ans de surveillance sur cette substance. Et sauf erreur de ma part, mais là je ne suis pas un expert du sujet, il me semble en fait les entreprises ou le secteur n'a pas fourni de data. C'est ce que reproche la Commission européenne. Donc le problème, c'est qu'on est une filière de PME et que les PME, elles ne sont pas organisées pour fournir des data comme à la Bofarma, quoi. Donc, en apportant une nutrivigilance qui montre qu'il n'y a pas de problème sur le produit. En tout cas, sur une dose revue à la baisse, hein, qui est de 3,5, je crois. Mais voilà, la Commission européenne, elle demande des choses que les entreprises ne peuvent pas toujours fournir parce qu'elles ne sont pas en capacité de le faire.
Et la Ashwagandha aussi?
La Ashwagandha, c'est un peu différent. Donc, je n'ai pas d'où est parti le dossier, mais en tout cas, il y a une réflexion autour de la Ashwagandha. Comme par hasard, c'est une plante quand même qui est très intéressante, qui fonctionne bien, parce que bien évidemment, la Commission européenne ne s'intéresse qu'aux substances qui ont un gros potentiel. Le premier exemple, c'était la levure de riz rouge, parce qu'on est frontière avec, peut-être avec la farm mal, pour certains pays.
Et alors, s'il y a ces points de vigilance et d'inquiétude, est-ce qu'il y a des points d'optimisme et de réassurance, quelque chose qui, voilà...
Les points d'optimisme, c'est que le marché, je veux dire, continue de se développer, malgré, on va dire, ces contraintes, que les consommateurs sont très satisfaits de l'utilisation, de la consommation des compléments alimentaires, qu'il y a de plus en plus de gens qui en consomment, et de plus en plus de consommateurs qui veulent prendre en charge leur santé, en tout cas qui sont plus des patients, on va dire, passifs, mais qui s'intéressent et qui essaient de comprendre ce qui peut leur procurer du bien-être et leur permettre de mieux vivre. Donc, heureusement que les consommateurs sont là, et c'est grâce à eux que le marché se développe. Sinon, le marché serait mort depuis des années. Hein. Il y a 30 ans, vous faisiez des gélules de ginseng, vous pouviez potentiellement... aller en prison pour un exercice illégal de la pharmacie. Donc il y a quand même des choses qui ont évolué, hein. Et ça prend du temps, certains. Donc il faut absolument il faut une mobilisation massive des adhérents. Les entreprises, aujourd'hui, elles ne peuvent plus vivre dans un écosystème où elles ne se préoccupent que, entre guillemets, de leurs clients, de leur marché, de leurs salariés. Elles doivent aussi, vivre et dans l'écosystème... qui est le leur avec les politiques du coin, avec les contraintes réglementaires, etc. Il faut qu'elles se saisissent de ces sujets-là et qu'elles, quand elles ont des arguments, qu'elles n'hésitent pas à les contester. On peut pas envahir des ronds-points, on peut pas, traverser la France en tracteur, donc on est une petite filière, mais il faut qu'on s'arrête aux politiques, hein. C'est la seule façon de faire. Et quand on regarde les fédérations, enfin, les syndicats nationaux, la France est bien structurée avec Finadiet, mais dans d'autres pays où les entreprises ont moins de problèmes, les syndicats sont très faibles, donc ils ont peu de moyens. Et si elles ont peu de moyens, si vous allez à Bruxelles, que vous devez faire appel à un cabinet d'affaires publiques, parce qu'ils vous font un cabinet d'affaires publiques, vous n'avez pas les moyens de payer, donc si vous n'avez pas les moyens de payer, vous ne faites pas.
Voilà, c'était l'entretien exclusif enregistré avec Nicolas Capelaer, le nouveau président de l'EHPM, dans les conditions du direct. On lui remercie beaucoup pour sa franchise et le temps qu'il nous a accordé. Émission que vous retrouvez en podcast sur Nutri Radio dans la partie médias et podcast.
Nutractu sur Nutri Radio.